Ceci étant posé, hein, c'est un peu le décor, je voudrais maintenant, dans cette première partie de ma présentation, qui va être consacrée à vous montrer les effets induits et les effets que nous considérons comme largement, pas toujours, mais largement négatifs de ce libre-échange généralisé, sachant que ma deuxième partie, j'essaierai de parler des alternatives au libre-échange, hein, j'essaierai de me tourner un peu plus, puisque je suis altermondialiste, et puis il y a des altermondialistes, je suppose, dans cette salle aussi. Alter, qui dit alter, c'est alternative, penser à autre chose. Donc on abordera ces points tout à l'heure. Mais avant de parler des alternatives, continuons à poser ce diagnostic et à poser cette description de ce qui se passe aujourd'hui. Ce libre-échange généralisé, pour nous, est beaucoup plus qu'un mode de régulation des échanges. Hein, parce qu'on pourrait dire, finalement, on se contente d'améliorer la circulation des marchandises ou des capitaux. Nous pensons que c'est beaucoup plus que cela. Pour nous, c'est un projet politique et idéologique. Vous voyez, ça va beaucoup plus loin. C'est une sorte de charte, c'est une sorte de fondement politique et idéologique essentiel. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler du consensus de Washington. Le consensus de Washington est un document élaboré en 1990 par un économiste qui s'appelle John Williamson, qui édicte justement la charte de ce néolibéralisme et qui met en avant précisément le libre-échange généralisé comme étant un des piliers de ce que doit être la mondialisation. Et il ajoute dans son article que non seulement il faut libéraliser les échanges de marchandises, de services et de capitaux, mais il faut par exemple, un, privatiser la plupart des entreprises, parce que quand on est sous contrôle du gouvernement, on bénéficie d'avantages indus, ça fausse la concurrence. Il faut également supprimer toute forme de subvention en général et réduire au maximum les dépenses publiques, parce que qui dit dépenses publiques dit fiscalité, et que la fiscalité, ça crée des distorsions, ça nuit à la liberté des échanges. Et donc, vous voyez, cette vision du libre-échange, vous voyez, va beaucoup plus loin. Ce n'est pas uniquement d'organiser les échanges, c'est véritablement un projet politique. Alors, pour nous, ce libre-échange a des conséquences que je vais essayer de décrire plus précisément, absolument profondes et même, et dans bien des cas, dévastatrices. Premièrement, pour les raisons que je viens de vous indiquer, ça se traduit par ce qu'on pourrait appeler un affranchissement des activités économiques vis-à-vis des contraintes sociales, politiques et écologiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le primat est donné à la liberté d'échange et à la rationalité économique, à la concurrence libre et non faussée, etc., et bien ça veut dire que tout ce qui est contrainte sociale, par exemple une protection sociale, hein, un système de protection sociale, des retraites, des indemnités de chômage, etc., peut fausser la concurrence et doit être cantonné dans des limites extrêmement étroites. De même, les contraintes de nature écologique peuvent être remises en cause. C'est-à-dire le fait que, à partir du moment où un pays va commencer à, on parlait d'un état de la taxe carbone, mettre en place des taxes écologiques, notamment à ses frontières, eh bien, il va fausser les échanges. Donc, comme c'est le primat du libre-échange, eh bien, on va demander au pays de bien vouloir abandonner ces instruments qui faussent ces échanges. D'une manière générale, ce libre-échange, si vous voulez, aboutit à réduire considérablement la capacité des États nationaux à mener des politiques autonomes. C'est-à-dire que tel gouvernement sortant des urnes, donc les électeurs ayant voté par exemple pour un plan important dans le domaine, je ne sais pas, de l'éducation ou de la santé, eh bien ce plan pourrait se voir être remis en cause parce que ce gouvernement ou son prédécesseur aurait signé un accord à l'OMC qui s'engage justement à libéraliser, à laisser libre ce secteur que l'État veut dynamiser par sa politique publique. Et donc, on constate que ce libre-échange est un facteur de réduction de capacité des États à agir. Et même, prenons l'exemple encore plus précis, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé en Grèce ces derniers temps. Ce qui s'est passé en Grèce, vous pourriez y passer un temps fou à en parler, mais j'insiste juste sur un aspect. On a bien vu, à propos de la crise grecque, comment des spéculateurs et des détenteurs du capital financier à l'échelle internationale on fait une pression sur un gouvernement pour qu'il mène une politique de rigueur budgétaire, de réduction d'un certain nombre de dépenses, etc. C'est-à-dire que cette liberté qu'a la finance de circuler librement, c'est aussi un moyen de pression extraordinaire qu'ont ces acteurs, ces investisseurs internationaux, pour obliger les gouvernements à se conformer à leur intérêt. Et donc, dans ces conditions, on voit qu'un gouvernement qui soit d'un pays développé ou d'un pays en voie de développement, et sous une espèce d'épée de Damoclès permanente, c'est-à-dire que s'il ne mène pas la politique qui est conforme aux intérêts des marchés, comme on dit quelquefois, eh bien, sa politique peut être contestée, sa politique peut être attaquée par de la spéculation, par exemple sur sa dette publique. L'autre aspect qui nous paraît très important, et par rapport à votre forum social, je crois que c'est une dimension essentielle, c'est, nous disons que le libre-échange généralisé entraîne un processus de déterritorialisation des activités. Alors, c'est un mot un peu, un néologisme peut-être, déterritorialisation, d'ailleurs, il faut bien le prononcer. Eh bien, c'est quoi? Ben, c'est que, en fait, l'espace ne compte plus, l'enracinement territorial ne compte plus, puisque à tout moment, l'idée, c'est de déplacer en permanence l'activité, de déplacer les emplois, de déplacer les échanges, et que donc, finalement, on est en quelque sorte sur une économie qu'on pourrait appeler une économie hors sol. Une économie où le territoire n'a plus d'importance, puisque en permanence, on met en concurrence les territoires, leur fiscalité, leur système social, etc., de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît très préjudiciable. Tout à l'heure, j'y reviendrai dans les alternatives, parce que c'est un des aspects qui fait le plus souffrir non seulement les salariés, mais les usagers, les citoyens, parce qu'en fait, on aboutit à une sorte de, avec ce libre-échange généralisé, de subordination de la totalité de l'espace, non seulement de l'espace au sens géographique du terme, de l'espace au sens de l'espace social, politique, démocratique, si vous préférez, à la logique du marché et quelque part au processus de marchandisation. Donc ça nous paraît aussi être un élément important. Vous voyez donc, ce libre-échange, vous voyez, on est parti d'un concept qui paraissait plutôt sympathique, qui au 19e siècle, au 18e siècle, avait quelque chose qui n'était pas poussé très loin, mais aujourd'hui, on lui a donné, vous voyez, une puissance qui est une puissance politique, idéologique, économique absolument considérable. Ce libre-échange-là, finalement, pourquoi est-ce qu'il a été institué? Pourquoi est-ce qu'on l'a poussé si loin? Eh bien, dans l'analyse que nous faisons, c'est que l'idée qui est derrière, c'est de construire un marché mondial au profit des entreprises transnationales et des investisseurs internationaux. Qui sont les grands gagnants de ce libre-échange généralisé? C'est eux, c'est elles, les multinationales, les investisseurs internationaux. Alors, bien sûr, on nous dit, ils ont raison, il faut être objectif, que le consommateur y gagne. Les ordinateurs que nous achetons, dont les prix ne cessent de baisser, et qui sont pratiquement tous fabriqués en Chine aujourd'hui, par exemple, ne seraient pas à un prix aussi bas s'il n'y avait pas cette mondialisation-là. Dont acte. Mais ne peut-on imaginer, j'anticipe sur les alternatives, un système économique dans lequel nous pourrions payer un peu plus cher nos ordinateurs, avoir des emplois, des ordinateurs fabriqués sur place, et des ordinateurs qui seraient aussi d'ailleurs plus durables, qu'on n'aurait pas besoin de changer tous les 5 ans. Pour des tas de raisons d'ailleurs, hein, par exemple l'obsolescence technologique, les logiciels qui changent sans arrêt, etc. Donc c'est poursuite, si vous voulez, à l'achat, etc. Donc tout ça, c'est un ensemble évidemment, de systèmes. Et donc, le consommateur, évidemment, en profite quelque part, mais en même temps, il est piégé dans cette course. Et cette course n'est pas de son intérêt, puisque le consommateur est aussi un salarié qui risque de perdre son emploi à cause, par exemple, de l'éventuelle délocalisation de son entreprise. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est ça qui est la logique de ce libre-échange généralisé, c'est que c'est un système qui pousse à son paroxysme, donc la notion d'échange, mais pour le profit d'abord, les profits d'abord, des grandes transnationales et des investisseurs qui placent leur argent là où justement les rendements sont les plus élevés, là où l'activité économique est la plus rentable, parce que par exemple les salaires sont les plus bas. Et donc c'est ça qui nous paraît extrêmement préjudiciable, si vous voulez, à la plupart des acteurs, des personnes de la planète. C'est que cela profite aux grandes entreprises, investisseurs, à leurs actionnaires, et beaucoup moins au reste de la population qui représente 95%, il n'y a que peut-être 5% des gens qui profitent à fond de ce système. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, puisque je parle des multinationales, elles ont un drôle de comportement qui est le suivant. Vous avez peut-être vu des statistiques. Il faut savoir que plus d'un tiers des échanges internationaux de biens et de services se font à l'intérieur des multinationales. C'est ce qu'on appelle les échanges intra-firmes. C'est-à-dire entre les filiales des multinationales ou entre les filiales des multinationales et leur maison mère. Et non seulement c'est un tiers, bon, on dirait pourquoi pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces entreprises utilisent, alors c'est un tiers pour toute la planète et c'est la moitié quand on raisonne uniquement sur les pays industrialisés, hein, les échanges des pays industrialisés entre eux. Un tiers ou la moitié, selon la référence que l'on prend. C'est que les entreprises multinationales, et vous l'avez peut-être vu dans la presse, on en a parlé ces derniers temps, utilisent des prix fictifs, qu'on appelle souvent des prix de transfert, c'est le terme technique, c'est-à-dire qu'elles facturent, une filiale va facturer à l'autre filiale à laquelle elles vendent un produit qui est hors marché, qui n'a rien à voir avec le marché. Donc c'est des gens qui défendent, c'est des acteurs qui défendent la liberté et le marché, mais en même temps qui pratiquent une logique quand elles échangent entre elles qui n'a rien à voir avec le marché. Pourquoi est-ce qu'on sous-facture, par exemple? Eh bien, on va sous-facturer pour faire en sorte, ou surfacturer, selon les cas, que la filiale, là où la fiscalité est la plus élevée, les filiales fassent zéro profit, de manière à ne pas payer d'impôts, et là où la fiscalité est la plus faible, on va facturer de telle sorte que les profits soient maximum à cet endroit-là. Donc, si vous voulez, ces multinationales championnent en principe dans les discours du libre-échange, en fait, ne pratiquent pas le libre-échange elles-mêmes. Elles se pratiquent entre elles une façon d'échanger qui échappe à tout contrôle, parce que c'est à l'intérieur. Donc les gouvernements, les douaniers, etc., ne peuvent rien savoir. Hein. Statistiques officielles, ça échappe complètement aux statistiques et à la connaissance des acteurs publics. Hein. Et en fait, essayent de déroger aux véritables lois du commerce et même du libre-échange, que pourtant elles défendent. Alors, si vous voulez, pour conclure sur cette première partie, cette première série d'analyses, si vous voulez, pour nous, le libre-échange généralisé a un bilan très globalement négatif pour la très grande majorité de la population. Et ça, évidemment, quand je vous dis ça, c'est à l'opposé de ce qu'on nous raconte dans les médias. Dans les médias, et c'est un discours habituel des hommes politiques, y compris à gauche, hein, on entend, il faut que les échanges se développent, les échanges, c'est la croissance. Les échanges, c'est garant de la création de revenus, etc. Alors bien sûr, je vais y revenir dans un instant, hein, il y a des échanges qui sont utiles. Je ne veux pas dire que tous les échanges sont à bannir, loin de là. Mais, si vous voulez, cette doctrine et cette pratique du libre-échange généralisé, c'est quoi? Eh bien, ça entraîne la régression sociale dans beaucoup de pays, et par exemple le nôtre. C'est-à-dire que les attaques sur les retraites, les attaques sur la protection sociale, eh bien, la précarisation du travail dans les entreprises, la menace permanente sur les salariés en disant vous allez perdre votre emploi, donc ne demandez pas des hausses de salaire, autrement délocalise. Tout ça, c'est des éléments qui sont liés à ce libre-échange généralisé. Là. Et aussi la pression permanente sur les salaires, ce qu'on pourrait appeler la déflation salariale, qui est pratiquée par un grand nombre de pays, en Europe, à commencer par l'Allemagne d'ailleurs, qui est un champion des exportations. Grâce à ça d'ailleurs, en partie, c'est qu'on pèse en permanence sur les salaires des travailleurs pour essayer de défendre la compétitivité. Et c'est le mot-clé à ce sujet. Mais on va même plus loin dans notre critique de ce libre-échange. C'est qu'on pense que ça induit un modèle de développement mercantiliste, c'est-à-dire que dont le seul objectif c'est de vendre toujours plus, et que c'est aussi un modèle de développement productiviste. C'est-à-dire que pour vendre plus, vendre plus, vendre plus, il faut être compétitif. Et pour être compétitif, il faut être efficace, produire avec des coûts salariaux les plus bas possibles, par exemple. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est une sorte de spirale, si vous voulez, extrêmement perverse, et qui se traduit par, j'emploie d'autres mots, par les guerres économiques que nous voyons, hein, les guerres commerciales, les guerres monétaires. Alors, les guerres économiques et commerciales, ben, c'est quoi? Ben, c'est le fait qu'on le voit, on le voit aujourd'hui sur la planète. On voit tous ces grands pays ou ces petits pays qui se battent à couteau tiré pour essayer de vendre au prix les plus bas leurs marchandises, en faisant des pressions sur le travail domestique, hein, en faisant des économies par tous les moyens pour essayer d'être plus compétitif. Les guerres monétaires, si vous lisez les médias, vous en avez entendu parler, c'est par exemple tel pays, qui est le plus grand du monde, je n'ai pas besoin de vous dire lequel, vous avez compris, qui pratique une sous-évaluation voulue de sa monnaie, de manière à améliorer encore sa compétitivité, alors que ce pays a parmi les salaires les plus bas de la planète. Donc, si vous voulez, ça, c'est des guerres monétaires. Et donc, vous voyez, on est dans ce contexte tout à fait pernicieux qui fait qu'on est dans une spirale tout à fait importante. Pour ceux qui ont lu Montesquieu, Montesquieu avait écrit Le doux commerce. Et Montesquieu, en effet, quand il écrivait cela, pensait que le commerce adoucissait les mœurs entre les pays. Et en effet, on peut penser que dans certaines circonstances, le commerce peut adoucir les mœurs. Par exemple, au lendemain de la guerre, quand on a construit l'Union européenne, le marché commun, ceux qui l'ont, les pères fondateurs, Monnet, Schuman, etc., Adenauer, tous ces gens-là, ont pensé que les pays qui avaient l'habitude de se battre pendant un siècle, la France et l'Allemagne notamment, eh bien, si on les faisait commercer entre eux, s'ils établissaient des liens commerciaux, eh bien, ils auraient des intérêts à ne plus se battre, intérêts plutôt à pratiquer donc l'échange. Ça, c'est un peu la vision de Montesquieu. Mais aujourd'hui, cette vision-là, hélas, cette vision d'un commerce qui adoucit les mœurs, vous voyez qu'elle est complètement dépassée, complètement remise en cause. Et on peut le déplorer. Hein. Alors, le mouvement intermondialiste, hein, comme vous le savez, est récent, hein, enfin en tout cas si on en juge par attaque, est né dans la contestation de cette mondialisation-là, de cette mondialisation fondée, qu'on appelle la mondialisation néolibérale, fondée sur ce libre-échange généralisé. Et par exemple, vous savez les étapes un peu de la constitution de ce mouvement à l'échelle internationale, par exemple la contestation de l'ALENA, alors ça c'est l'association de libre-échange nord-américaine, qui organise des échanges entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, avec des effets tout à fait déplorables que vous avez peut-être pu lire sur le Mexique et sur un grand nombre de travailleurs mexicains. Bon, Seattle, c'est en 1999, c'est la contestation justement de l'OMC et de ses méthodes d'organisation des échanges sur cette base du libre-échange généralisé. Et donc, si vous voulez, notre réflexion à nous, altermondialistes, notre travail, c'est d'aller vers un monde, un autre monde, comme on dit, altermondialiste, ça veut dire un autre monde, en proposant des alternatives précisément à ce libre-échange généralisé. Alors, être altermondialiste, et je suis certain que dans cette salle, même si vous n'êtes pas, entre guillemets, altermondialiste, vous n'êtes pas contre le refus, vous n'êtes pas pour le refus de l'échange. Je crois que tout être humain bien constitué aime l'échange avec les autres. Alors, l'échange amical, l'échange de biens éventuellement, l'échange de services, marchands ou non marchands, désintéressés ou pas, ça fait partie de la nature humaine, ça fait partie, nous sommes des êtres sociaux, notre vie en société est faite d'échanges. Donc la notion d'échange ne se réduit pas, heureusement, à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la planète. Simplement, c'est une autre conception d'échange que nous voudrions voir se développer. Alors, si on en revient aux échanges commerciaux, je me situe au niveau des échanges commerciaux, moi je dirais qu'il y a des échanges qui sont absolument nécessaires entre pays, par exemple. Alors, c'est quand il n'y a pas de substitut. Tel pays qui ne produit pas telle matière première, du charbon par exemple, ou du gaz, va avoir besoin d'en importer, évidemment, pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir développer son industrie. Il y a aussi des échanges qui sont utiles. Par exemple, l'échange de savoir, ou les échanges culturels, ou les échanges de technologies. On voit bien que certains pays ont des connaissances, ont quelquefois un avantage technologique, un savoir-faire dans certains domaines que n'ont pas d'autres pays, il apparaît normal qu'il y ait des échanges à ce niveau-là, ce qu'on appelle quelquefois les transferts de technologie, notamment entre les pays avancés, les pays anciennement industrialisés, et les pays en voie de développement. Donc ce type d'échange est plus que souhaitable, évidemment. Autre type d'échange, c'est l'émigration. Quand je dis échange, c'est peut-être pas le bon mot, mais disons la circulation. La circulation des hommes sur la planète, c'est une liberté fondamentale inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme, la liberté de circuler. Donc la liberté de circulation des individus, des personnes, pour des tas de motifs économiques, politiques, etc., ou touristiques, en ce moment ils ont un peu de problèmes, mais disons que tout ça, ça fait partie de la liberté, et tout le monde, et personne, sauf les dictateurs, voudrait remettre en cause, en principe, dans son principe, ce genre d'échange. Or aujourd'hui, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous avez remarqué que la mondialisation fait exactement le contraire de ce qui serait souhaitable. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met des freins à la circulation des personnes. Dans la plupart des pays, et le nôtre, et on peut, personnellement j'ai honte quelquefois d'être français à cause de ça, quand on voit la politique des migrations, hein, ou d'immigration, hein, soi-disant choisie, donc en fait qui consiste à choisir ceux qui sont les plus intéressants pour l'économie, et d'expulsion des travailleurs étrangers, eh bien, ça c'est quelque chose qui est un véritable obstacle, je n'ai pas besoin de faire un dessin, à la libre circulation, donc un des droits fondamentaux de l'humanité. Il y a un autre domaine où il y a quelque chose qui tourne pas rond, on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire, c'est la circulation du savoir et des technologies. Je suppose que vous avez entendu parler des droits de propriété intellectuelle. Quand l'OMC, et ça c'est une chose qu'il faut savoir, quand l'OMC a été créée en 1994, par les accords de Marrakech, il y a eu une grande négociation entre, en gros, les pays du Nord, les pays riches, et les pays en voie de développement. Et c'était du donnant-donnant. Les pays développés, comme le nôtre, ont dit, on ouvre nos frontières aux pays du Sud, aux marchandises des pays du Sud. Notamment, c'est comme ça qu'on a abandonné l'accord multifibre, vous avez entendu parler, sur la qui protégeait les entrées de matériaux textiles. Hein. Bon. Bien. Et en échange de quoi, on demande aux pays du Sud, aux pays moins avancés, donc, d'accepter que les pays les plus avancés se protègent la propriété intellectuelle, leur savoir, c'est ce qu'on appelle les droits de propriété intellectuelle. C'est les accords TRIPS, les accords sur la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que les grands champions du libéralisme, soi-disant, qui étaient défenseurs de l'OMC, ils ont fait d'un côté une ouverture des frontières, mais de l'autre, ils ont verrouillé, ce qui est tout le contraire du libéralisme, ils ont verrouillé, ils ont fait donc du protectionnisme maximum sur la propriété intellectuelle. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des tas d'entreprises chez nous, mais aussi dans le monde entier, d'entreprises ou bien de citoyens, qui auraient besoin de se faire soigner, par exemple, grâce à des technologies médicales très avancées, et qui ne peuvent pas le faire parce que, par exemple, les grands laboratoires pharmaceutiques, les grandes transnationales de la pharmacie interdisent ce genre de vente, ou parce qu'elles veulent profiter de leurs brevets au maximum, et qu'elles refusent, par exemple, alors heureusement, il y a eu des victoires, hein, qui ont été obtenues la lutte contre le sida. On a obligé, le mouvement social a joué un rôle d'ailleurs, hein, on a obligé les pays, les grandes transnationales américaines ou européennes à accepter qu'il y ait des génériques, des thérapies hein, utilisées pour lutter contre la pandémie du sida, par exemple. Hein, et donc, de tenir, fabriquer en Inde en particulier, ou en Afrique du Sud. Donc, ça c'est quelque chose c'est une brèche qu'on a mis dans les droits de propriété intellectuelle. Mais si vous voulez, d'une manière générale, il y a une protection très forte sur la propriété intellectuelle. Et donc, vous voyez que le libéralisme qui est prôné par l'OMC a des limites. Et tout ça pour le plus grand bien des multinationales, évidemment. Donc, on voit bien que cet accord de Marrakech et que cette OMC, elle roule d'abord pour les multinationales parce qu'elle organise la liberté des échanges qui les arrange beaucoup pour les marchandises et les produits et les capitaux. Mais par contre, elle verrouille la liberté de circulation du savoir et des nouvelles technologies, des technologies dans tous les domaines. Hein. Parce que ça arrange les multinationales d'avoir des brevets et de les vendre très cher. Donc, si vous voulez, on est dans un monde qui tourne complètement à l'envers.